Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je m'appelle Harry Noël. Je sais que certains d'entre vous ne me connaissez pas. Je suis pasteur à Paris, à l'église de la Plaine, et pour moi, c'est toujours une joie de pouvoir être là. Je remercie Philippe qui a pensé à moi pour pouvoir le soulager. Je crois qu'il est en vacances, hein, il me semble. En tout cas, j'espère qu'il va vraiment pouvoir en profiter. Alors, je dois avouer et je dois te dire merci, Francis, pour la lecture, parce que je sais que la lecture n'était pas facile. Moi, j'ai essayé plusieurs fois et je sais qu'il y avait des mots sur lesquels je butais, pour ne pas dire plutôt des noms. En tout cas, merci beaucoup. Quand j'ai envoyé la référence à Philippe, il m'a envoyé un texto en me disant « Pourquoi ce texte ?» Mais qu'est-ce que tu veux dire au travers de ce texte ? Ne vous inquiétez pas, on va étudier ce texte et j'espère qu'on sera édifié, encouragé et émerveillé. Il n'y a pas d'erreur sur la référence, je vous rassure, il n'y a pas d'erreur. Mais c'est vraiment un texte qui m'a beaucoup interpellé et j'espère que ça va nous faire du bien de lire ce passage-là qui nous parle de notre Seigneur. Mais avant ça, je sais que on a parlé un petit peu des JO pendant la présidence. Alors, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas parler de la polémique qu'il y a actuellement. Hein, ok, on pourra en parler après si vous voulez. Mais on veut se rappeler que les Jeux Olympiques, c'est quand même quelque chose de sympa qui arrive tous les 4 ans. Et en fait, c'est des moments où on se réjouit. On voit les drapeaux qu'on ne connaît pas. Je ne sais pas si vous, en tout cas, moi, j'ai vu des nations, j'avais complètement oublié qu'elles existaient. Hein, ouais. Et puis, on voit les beaux costumes aussi. On voit plein de choses. Et puis, on voit tous ces athlètes qui essaient de se dépasser pour obtenir la médaille d'or. En fait, moi, j'aime beaucoup l'histoire et notamment les origines de certaines choses. Et je ne sais pas si vous savez, mais les Jeux Olympiques, bon, à la base, hein, la Grèce antique, vous aviez tous ces athlètes qui avaient ces épreuves à Olympie, sur le stade d'Olympie, pour les dieux. On veut se rappeler de ça. Hein. Et c'est seulement en 1896, je crois, que M. Coubertin, en fait, a voulu révolutionner un petit peu ces Jeux. Et en fait, il a voulu en faire quelque chose, non pas juste de, voilà, cet endroit, mais quelque chose de mondial. Parce qu'il avait deux objectifs. Et peut-être que vous les connaissez. Le premier, c'est qu'il était convaincu de l'impact du sport pour la jeunesse. Le dépassement de soi, l'abnégation, l'entraide dans l'équipe, vous voyez un petit peu l'idée. Et la deuxième chose, et ça c'est un petit peu moins connu, même si on a le drapeau des Jeux Olympiques qui nous rappelle cette réalité, c'est qu'il était convaincu qu'au travers des Jeux Olympiques, qu'on pouvait améliorer les relations entre les nations. Et c'est pour ça que vous avez ce drapeau avec les différents anneaux qui sont entrelacés les uns entre les autres pour rappeler que nous ne faisons qu'un. Je vais vous annoncer quelque chose qui n'est peut-être pas très sympa. Cette promesse n'a pas été exaucée. Je répète, hein, ça n'a pas été exaucé. Il y a toujours des conflits. Hein, entre 1896 et aujourd'hui, je ne sais pas si vous savez, mais on a eu deux guerres mondiales pour ne pas parler de tous les autres conflits. Même pendant la cérémonie, vous aviez des nations qui étaient présentes et qui sont hostiles les unes envers les autres. Alors bien entendu, des fois, on a des petits clins d'œil qui nous encouragent, comme les Sud-Coréens qui prennent une photo avec les Nord-Coréens. Je ne sais pas si vous avez vu ça, ils ont pris un selfie ensemble. Et c'est un beau clin d'œil. Mais la situation entre les deux pays est toujours la même. En fait, pourquoi est-ce que je dis ça ? Parce que cette promesse de Pierre de Coubertin, celle qu'il avait à cœur au travers des JO, en fait, n'est pas exaucée, n'a pas été accomplie, parce que la promesse était trop grande. Trop difficile, impossible. C'est impossible de changer le cœur des hommes au travers de jeux, sinon ça se saurait. On peut améliorer les choses, mais on ne peut pas parce que sa promesse était impossible à tenir. Mais nous, on va voir quelqu'un qui, lui, tient ses promesses. Même si cela semble impossible, même si on se dit, mais non, avec le temps qui s'est passé, non, on va voir quelqu'un qui tient ses promesses. Elles peuvent être extraordinaires, ce n'est pas un problème pour lui. Et au travers de l'histoire, le texte qui vient juste d'être lu, et je sais que des fois on se dit, mais c'est quoi ce texte ? En fait, on va voir quelque chose qui est important, la fidélité de Dieu. Ce que lui est capable de faire. Est-ce que Abraham a vécu ? En fait, nous pouvons le vivre aussi. Spirituellement, nous sommes les enfants d'Abraham par la foi en Jésus-Christ. Donc sa vie ressemble aussi un petit peu à la nôtre, avec des hauts et des bas, mais toujours sous le regard fidèle de notre Dieu. Je sais que bien souvent, on ne lit pas trop cette partie de la vie d'Abraham. Je ne sais pas pour vous, souvent, on passe très très vite. On a plein d'événements dans nos têtes lorsqu'on pense à Abraham qui nous viennent très, très rapidement en tête. Les bêtises qu'il a faites, ok. Agar. Sodome et Gomorre. En fait, on a tous ces événements qui nous viennent très facilement en tête, mais le moment de sa mort, je ne sais pas si vous avez fait attention, et si vous êtes souvenu de la dernière fois que vous avez lu ce passage-là et que vous avez médité dessus, ouais, je crois qu'on ne s'en souvient pas. Hein. Et pourtant, il y a tellement de choses à dire. Vous savez, lorsqu'on lit une biographie, c'est toujours intéressant de voir la vie d'une personne, mais on s'intéresse surtout à la fin, pour savoir comment est-ce qu'il a terminé sa vie. Parce que la manière dont il va terminer sa vie va nous donner une image, en fait, de l'ensemble de sa vie. Est-ce que c'était une vie qui a valu le coup ou pas ? Et bien souvent, on juge ça à la manière dont ces hommes ou ces femmes meurent. Et pour Abraham, ce n'était pas évident, mais la fin est encourageante, même s'il y a la mort. Et je nous invite, je nous encourage à voir ce texte avec ce prisme qui est Dieu est fidèle et il a tenu ses promesses. Et la vie d'Abraham est une vie qui valait le coup et qui a porté du fruit. Pendant la présidence, pendant ce temps de louange, en fait, plusieurs mots sont revenus et un m'a beaucoup interpellé, c'est celui de bénédiction. Et quelque part, c'est ce que l'on va voir dans ce texte-là, énormément de bénédiction. Mais ce que je vais essayer de montrer, c'est que la bénédiction, ce n'est pas juste un truc pour nous et qui nous fait du bien et qui nous fait plaisir, mais que la bénédiction doit nous amener à tourner le regard vers celui qui est l'auteur des bénédictions. Et dans ce passage-là, il y a des bénédictions extraordinaires qui manifestent la fidélité de notre Seigneur. Et si je devais donner un résumé, ce serait de dire que nos bénédictions, pour être de vraies bénédictions, doivent œuvrer dans la grande bénédiction qui est celle de l'avancée de l'Évangile. De le suivre lui, de l'aimer. On a chanté des chants à la gloire de notre Dieu. Nos bénédictions sont tournées vers lui et pas vers nous. Et je sais que ce n'est pas évident. Mais que le Seigneur puisse nous encourager au travers de ce passage. Si, Seigneur, donne-moi, Seigneur, de pouvoir parler en ton nom. Je suis juste un outil entre tes mains. Tu es le premier, moi je suis second, Seigneur. Que tu puisses nous encourager et nous émerveiller par ta parole. Et c'est dans le nom de ton Fils que nous te prions. Amen. Je vous propose de voir ce texte au travers de trois grandes parties. La première, des bénédictions qui montrent celui qui a fait les bénédictions. Ensuite, on verra des bénédictions qui œuvrent pour la promesse et des bénédictions en vue de la réalisation de la promesse. De la promesse. Est-ce que quelqu'un se souvient de ce que cela veut dire Abraham ? Oui. Oui, père d'une multitude, père des nations, et Abraham. Ah. Père élevé. En fait, c'est intéressant que le nom d'Abraham ou Abraham avait toujours une connotation par rapport à une descendance, alors qu'on veut se souvenir qu'Abraham, pendant pas mal de temps, il n'a pas eu d'enfant. Pendant des années, lorsqu'il a rencontré Dieu, il avait déjà 75 ans et toujours pas d'enfant. Est-ce que vous vous souvenez, lorsque Dieu est venu en Genèse chapitre 15 et qu'il lui a fait une promesse avec une alliance, en fait, il lui a dit « Je vais faire quelque chose d'extraordinaire pour toi » et la réponse d'Abraham avait été quoi ? « J'ai pas d'enfant ». En fait, au travers de cette simple phrase, en fait, Abraham était en train de révéler son cœur et son désir, ce qu'il désirait plus que tout au monde. Ce qui le drivait, ses attentes, ses aspirations, il attendait un fils. Et en fait, on a cette phrase où il dit, je n'ai pas de fils, c'est mon serviteur qui va tout hériter. Il est en train de dire, pourquoi est-ce que tu dis que tu vas me bénir alors que je n'ai pas de fils ? Et là, vous discernez où est son cœur. Mais Dieu a fait une promesse, c'est de l'utiliser. Et si on se remet dans les baskets d'Abraham, pendant des années, à chaque fois qu'on l'appelait « Père élevé », c'était le rappel du fait qu'il n'avait pas d'enfant. Est-ce qu'on imagine ça ? À chaque fois qu'on l'appelait, c'était le rappel qu'il n'avait pas d'enfant. C'était le rappel que sa femme était stérile. C'était le rappel de ne pas pouvoir avoir de descendance à soi et qui, à l'époque, est très important. Mais Dieu est fidèle. Et si vous regardez notre texte, vous avez cette multitude de noms qui sont cités. Les uns plus difficiles que les autres, ok, je suis d'accord. Mais en fait, ce que l'auteur est en train de nous montrer, c'est que Dieu a fait quelque chose d'extraordinaire dans la vie de cet homme. Il a été béni, pas seulement avec un fils, pas avec deux, mais avec huit enfants. Combien de bénédictions sont liées juste à ça, au fait qu'il ait ses enfants, cette multitude de noms qui sont cités jusqu'au verset 4. Un homme qui a 137 ans lorsque sa femme Sarah meurt, il a encore de la vigueur pour avoir des enfants. Un homme qui a vu trois générations, je dis bien trois générations. Il y a lui, il y a son fils, et il a vu son petit-fils. Si vous faites le calcul, lorsque Abraham a Isaac, il a 100 ans. Lorsque Isaac a Jacob, Jacob a une soixantaine d'années. Et Abraham est mort à 175 ans, donc il a vu des générations. Dieu a été fidèle. Son nom n'est plus synonyme de honte. Père élevé, non, père de nation. En fait, tous les noms qui sont cités là sont devenus de grandes nations. Le clan est en train de grandir. Il a eu ce qu'il souhaitait, une postérité nombreuse. Mais, est-ce que quelqu'un a un téléphone, un iPhone, un Android, je ne sais pas de... Est-ce que quelqu'un pourrait me prêter son téléphone, quelques secondes? Je le rends, hein. Je le rends. Sauf si c'est un iPhone 15 ou je ne sais pas trop combien. Ouais, iPhone, oh, bien. Vous voyez cet objet? En fait, cet objet a complètement changé notre manière de vivre, on est d'accord, hein. En bien ou en mal? Bon, ok, je ne vais pas parler de ça, mais il y a quelques temps, en fait, j'ai vécu quelque chose qui m'a interpellé et qui m'a encouragé justement par rapport à ce texte-là. Aujourd'hui, qui achète un téléphone juste pour téléphoner? Alors, il y en a un qui a levé la main, il a retiré sa main tout de suite. En fait, c'est intéressant, j'étais dans une église où j'étais invité, une église roumaine, et tout était en roumain. Tout. Les chants, la présidence, la prédication, tout était en roumain. Et en fait, ils ont mis quelqu'un à côté de moi qui essayait de traduire, mais alors, honnêtement, c'est difficile de traduire en temps réel, de traduire les chants, etc. Et en fait, à un moment donné, je me suis dit, peut-être que je peux trouver la traduction sur mon téléphone. J'ai pris mon téléphone, j'ai scanné en fait les paroles, et en fait, mon téléphone m'a proposé les paroles en français. J'ai fait, waouh! Et j'ai regardé la jeune fille à côté de moi, je fais, est-ce que c'est bien ça la traduction? Elle me fait, oui, c'est bien ça la traduction. Et j'ai pu suivre le culte comme ça. En fait, pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce qu'aujourd'hui, on n'achète plus un téléphone juste pour téléphoner, mais pour tellement plus. Je te rends. Mais pour tellement plus. Et là, dans ce passage-là, on pourrait juste regarder la bénédiction. Alors que Dieu veut tellement plus que pour nous. Il veut plus que juste la bénédiction. Il veut que la bénédiction nous amène à le regarder, lui. À le voir, lui. Oui, bien sûr, Abraham a eu ses enfants. Bien sûr, il est reconnaissant. Oui. Mais toutes ces bénédictions, ces noms sont le rappel pour Abraham de ce Dieu qui a fait des choses extraordinaires dans sa vie. La vraie bénédiction pour Abraham, comme pour nous, c'est qu'il a vu la fidélité de Dieu au travers de ses enfants. Dieu a tenu sa promesse. Il a vu la puissance de Dieu malgré son âge. Malgré le fait que son corps était flétri, malgré le fait qu'il était vieux, qu'il normalement n'était plus dans la capacité d'avoir d'enfants, il a vu la puissance de Dieu qui agit malgré l'impossibilité. Il a vu la bonté de Dieu qui connaissait sa détresse, la sienne et celle de sa femme. Il a vu la grâce de Dieu qui, malgré ses erreurs, a continué à avancer avec lui, parce que son plan était avec lui. Est-ce que vous voyez où est-ce que je veux en venir? La bénédiction est extraordinaire, mais elle est appelée à nous tourner, à nous aider à tourner notre regard vers celui qui est l'auteur de la bénédiction, à comprendre son caractère, ce qu'il peut faire, ce qu'il est. Là, devant moi, vous avez ce panneau, et en fait, j'étais super reconnaissant de voir ce panneau avec ses prières et ses cœurs qui rappellent les promesses qui ont été exaucées. Mais ce pourquoi nous sommes reconnaissants, ce n'est pas juste parce que ça a été exaucé, mais parce que nous sommes reconnaissants d'être dans la présence de celui qui a la possibilité d'exaucer ses bénédictions. Et qui nous rappelle qui il est. Il est puissant, on a chanté Dieu tout-puissant, Dieu trois fois saint. Et c'est là que nous pouvons rentrer dans une véritable louange. Et voilà ce que Abraham a expérimenté durant sa vie. Pas juste une bénédiction, mais il a expérimenté la présence de l'auteur des bénédictions. Et je nous encourage à vivre ça. Parce que bien souvent, on aime la bénédiction pour la bénédiction. On aime ce que Dieu nous donne au travers de sa main, mais aimons celui qui donne. Et ce texte nous rappelle qui a béni. Les amis, que nos bénédictions puissent être un encouragement pour nous pour tourner notre regard vers lui. Si vous avez un travail, merci Seigneur que votre regard soit tourné vers Dieu. Pas sur votre travail. Pareil pour vos enfants. Vos enfants sont une bénédiction extraordinaire, mais la reconnaissance revient à notre Dieu. C'est lui l'auteur de toutes ces bénédictions. Notre argent, non, ne doit pas être un maître, mais un outil que nous utilisons pour louer et adorer notre Seigneur. Les bénédictions sont un moyen qui montre celui qui a fait la promesse. Et qui les tient ? Et qui les tient ? Et qui les tient ? Mais les bénédictions sont aussi de véritables bénédictions si elles-mêmes œuvrent dans la promesse de Dieu. J'explique. Une bénédiction juste pour soi, c'est génial. Ok, super. Mais est-ce que ce n'est pas extraordinaire lorsque nos bénédictions deviennent quelque chose que nous pouvons utiliser pour la gloire de Dieu, pour le remercier, pour le louer, mais également tout ce qu'il nous donne, tout ce qu'il fait pour nous, que ce soit un moyen pour nous de dire « Je veux mettre ça à ton service ». Et dans ce texte-là, on voit, après cette succession de noms, quelque chose qui se passe dans la vie d'Abraham. On veut se souvenir qu'Abraham n'a pas toujours été parfait. Il n'a pas toujours été parfait. Mais il a expérimenté la présence de Dieu et maintenant il veut que ses biens, il veut que son temps, il veut que son énergie puisse être tournée vers la promesse que Dieu avait faite. Vous vous souvenez, en Genèse chapitre 12, Dieu lui avait fait cette promesse que de lui viendraient des grandes nations et que toutes les nations seraient bénies, bénies, bénies. Et Abraham a été béni, c'est un homme riche. Abraham a été béni, il a des enfants, Abraham a été béni de plein de choses, et vous allez voir qu'il va mettre ses bénédictions en œuvre pour la promesse de Dieu. Verset 5, Abraham donna tous ses biens à Isaac. Il fit des dons au fils de ses concubines, et tandis qu'il vivait encore, il les envoya loin de son fils Isaac, du côté de l'Orient, dans le pays d'Orient. Et je continuerai après. En fait, ce qui est en train de se passer là, c'est un peu comme... qui a déjà fait un film ici ? Alors un film qui est passé à la télé, un film un peu sympa, hein, Netflix, non, personne. Personne. Non, personne. Moi, j'ai eu la chance de faire un film. Alors par contre, c'est pas peine de chercher sur Internet, vous trouverez pas, ok ? Mais en fait, moi, il y avait un truc que j'attendais, c'était mon nom au générique. Et j'ai pas eu mon nom au générique. En fait, le fait d'avoir son nom au générique, c'est le fait de dire « j'ai participé à ça ». Moi, j'aurais été, même si j'avais dû pousser une poubelle et qu'on m'avait dit « pour ça, ton nom sera au générique », je l'aurais fait. Mais en fait, on veut avoir son nom au générique parce qu'on veut avoir on veut participer à ce grand projet qui est juste extraordinaire. Alors ok, il y a les personnages principaux, oui c'est vrai, il y a le producteur, oui ok, d'accord. Mais moi, je veux bien être le tout petit gars dans son coin et qui a son nom. J'ai dit « je suis là, j'étais dans le truc ». Abraham, c'est un petit peu ça. Abraham, maintenant, veut que sa vie entre dans les promesses de Dieu. Il veut son nom au générique. Et voilà ce qui se passe. Et voilà ce qui se passe. Ses biens, son temps, son énergie, il va les mettre au profit de la bénédiction que Dieu lui avait faite dans la personne d'Isaac. Et Abraham va utiliser sa sagesse. La sagesse, alors la sagesse, ce n'est pas de l'intelligence. La sagesse, c'est savoir comment, quoi faire ou comment se comporter en fonction des situations qui se présentent devant nous. Et Abraham, au travers de sa vie avec Dieu, a appris. Il a aussi appris de ses erreurs. Mais il a appris de Dieu, il a appris à écouter les promesses de Dieu. La promesse est en Isaac. C'est de lui qu'une postérité extraordinaire va éclore. Et donc, il va utiliser sa sagesse en se rappelant ses promesses et en mettant la majorité de ses fils au loin, pour préserver Isaac en particulier. Et je ne suis pas en train de dire qu'il n'aime pas les autres enfants. Non, il donne des biens à ces enfants-là. Mais la majorité de ce qu'il a, il veut le donner à Isaac, parce que c'est lui qui est l'enfant de la promesse. Une promesse pour tous les peuples. Ça veut dire que même les descendants de ses autres enfants pourront être au bénéfice de cette bénédiction. Et en fait, Abraham veut que cette lignée qui va venir en la personne d'Isaac puisse avoir tout ce dont ils ont besoin pour l'accomplissement de la promesse que Dieu avait promis. Abraham montre sa sagesse en investissant dans les plans de Dieu. Et il donne tout. On se souvient qu'Abraham a changé. Hein. Vous vous souvenez, les autres fois où Dieu lui avait annoncé certaines choses, tu auras un fils par Sarah, qu'est-ce qu'il a fait ? Sarah et lui sont allés voir ailleurs et ont proposé Agar. Dieu avait fait une promesse à Abraham de lui dire « Tu auras une grande descendance qui implique qu'il va vivre. » Mais lorsqu'il s'était retrouvé en Égypte, il a essayé de faire les choses par lui-même. En disant « Ah non, Sarah, ce n'est pas ma femme, hein, c'est ma sœur. » En fait, il a appris que ses plans à lui ne sont pas les bons, mais que les plans de Dieu sont les bons. Et ça, c'est un encouragement pour nous parce qu'il y aura des combats, il y aura des défis où des fois, on aura envie de prendre les commandes. Mais je nous invite à voir les promesses de Dieu, à voir sa fidélité comme un encouragement pour nous lorsque nous montons dans la voiture avec Dieu, à lui dire « c'est toi qui tiens le volant et moi je suis le passager ». Et là, Abraham fait un all-in dans la personne d'Isaac. Et pas seulement, il va aussi mettre son temps. Abraham est à la fin de sa vie. En fait, au travers de ce passage-là, on a l'impression qu'il ne met pas seulement ses biens au profit de la promesse qui a été faite, mais qu'il met aussi son temps et son énergie. Il est sur le point de mourir, mais il prend les choses en main. Il n'est pas encore mort, il est déjà en train de faire les choses pour s'assurer que tout ira bien. Les amis, des fois, notre temps, qui est aussi une bénédiction, des fois, on ne l'utilise pas forcément à bon escient. Je vais faire une confession. Il y a quelque temps, j'ai installé TikTok sur mon téléphone. Une heure s'est passée. Il y a eu un trou dans l'espace-temps. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je me suis réveillé, une heure était passée. J'ai supprimé. J'ai dit, oulala, je ne peux pas gérer. Quelque temps plus tard, je me suis dit, ça y est, maintenant je sais, je suis préparé. On va remettre l'application. Ça a duré 10 minutes. J'ai vu que pour moi, ce n'était pas possible. Je ne sais pas gérer ça. Et j'ai vu que mon temps était... Les amis, notre temps est une bénédiction de Dieu. Et nous devons demander au Seigneur de nous aider à utiliser ce temps à bon escient. À bon escient. Et nous avons besoin de le comprendre. Demandez à une personne qui vient de rater son bac ce que ça représente une année. Il va vous dire beaucoup. Demandez à une femme qui a accouché un mois trop tôt, ce que ça représente ce mois dans le développement de son enfant, avec toutes les implications. Demandez à quelqu'un qui est responsable d'un journal, d'un hebdomadaire, qu'est-ce que ça veut dire une semaine pour lui, en intensité, en choses à faire. Demandez à un jeune homme et une jeune femme qui sont fiancés, mais qui habitent très très loin, et qui sont à une heure de se retrouver, ce que ça veut dire une heure pour eux. Demandez à quelqu'un, je suis venu en transport aujourd'hui, demandez à quelqu'un qui a raté son train d'une minute. Une minute. Une minute. Demandez à quelqu'un qui a perdu un être cher et qui donnerait tout pour avoir une seconde avec cette personne. Demandez à un athlète qui est arrivé deuxième, qui a une médaille d'argent et qui est arrivé deuxième à un millième. Notre temps est une bénédiction. Et nous pouvons l'utiliser à bon escient pour la gloire de Dieu. Et je sais que nous avons des efforts, et moi le premier, justement, sur la gestion du temps. Mais c'est une bénédiction et nous pouvons l'utiliser à bon escient pour la gloire de Dieu et pas la nôtre. Pour la gloire de Dieu et pas la nôtre. Et donc nous voyons qu'Abraham cherche à mettre tout ce qu'il est, toutes les bénédictions, son argent, son temps, son énergie, pour la promesse qui a été faite par Dieu en la personne d'Isaac, qui doit passer par Isaac. Est-ce que vous voyez les points que j'essaie de faire et de montrer comment les bénédictions dont est l'objet Abraham ne sont pas juste des bénédictions pour lui, mais qu'elles ont vocation à quelque chose de bien plus grand, la promesse de Dieu. Verset 7. Voici les jours des années de la vie d'Abraham. Il vécut 175 ans. Alors, si on veut se rappeler, Genèse 12, où on voit pour la première fois Abraham, il avait quel âge ? Il avait 75 ans. Entre Genèse 12 et Genèse 25, il s'est passé 100 ans. 100 ans. 100 ans. Voici les jours des années de la vie d'Abraham. Il vécut 175 ans. Abraham expira et mourut après une heureuse vieillesse, âgé et rassasié de jours. Et il fut recueilli auprès de son peuple Isaac et Ismaël. Ses fils l'enterrèrent dans la caverne de Macpéla, dans le champ d'Éphron, fils de Tochar, le Héthien, vis-à-vis de Mamré. C'est le champ qu'Abraham avait acquis des fils de Heth. Là furent enterrés Abraham, Sarah et sa femme. Après sa mort, Abraham, Dieu bénit Isaac, son fils. Il habitait près du puits de l'Akairoï. Alors c'est sûr que si je lis ce passage-là comme ça, vous me direz, ok, d'accord, Abraham, il est mort, ok, d'accord, qu'est-ce qu'il y a à dire là, maintenant ? En fait, il y a énormément de choses sur cette dernière partie qui, j'espère, nous encouragent. On n'a pas arrêté de dire que Abraham a été béni et que ses bénédictions sont un moyen pour avoir le regard tourné vers Dieu. Et même là, en fait, on discerne que l'auteur veut nous rappeler encore une fois qu'il a été béni. La dernière partie de sa vie a été heureuse avec Dieu, même s'il y a eu des combats, même s'il y a eu des difficultés. Sa vie a été heureuse avec Dieu. Et ça, c'est un rappel que c'est la fin de sa vie. Pas le début de sa vie, pas les 75 premières années. Pourquoi ? Parce qu'il ne connaissait pas Dieu encore. Il ne le connaissait pas, mais il a expérimenté Dieu. Il a vu Dieu. Il a écouté Dieu. Il a été repris par Dieu. Il a été aimé de Dieu. Et il a vu les promesses de Dieu s'accomplir. Et quelque part, c'est aussi ça la marche chrétienne. Souvenez-vous lorsque vous n'étiez pas encore au Seigneur. Quelles étaient vos aspirations ? Quels étaient vos rêves ? Et maintenant, regardez à ce que le Seigneur est en train de faire maintenant dans votre vie, dans votre marche avec lui. Est-ce que vous êtes en mesure de dire « Oui, ma vie est bien mieux maintenant qu'avant » ? J'espère que c'est le cas. Parce que si ce n'est pas le cas, c'est que vous n'avez pas encore goûté à la véritable présence de Dieu dans vos vies. Mais Abraham a expérimenté la présence de Dieu. Et l'auteur est capable de nous dire qu'il est mort après une heureuse vieillesse. Mais encore une fois, une bénédiction, mais qui doit nous aider à tourner notre regard vers Dieu, et seulement lui. Parce que si on regarde et si on décortique le passage, on doit se rappeler que qu'est-ce qu'il possède réellement Abraham ? Quelle est la seule propriété, alors qu'il avait une promesse qui était que sa postérité aurait tout le territoire, qu'il serait une bénédiction pour toutes les nations ? En fait, là, on a le rappel du seul truc qu'il possédait réellement. J'ai entendu la réponse, je crois. Un tombeau. Un caveau. C'est ce qu'il possède à la fin de sa vie. Et pourtant, l'auteur est capable de nous dire qu'il a fini de la bonne des manières. Et il y a une raison pour ça. Il y a une raison pour ça. Est-ce que vous savez quels sont les deux plus grands événements qui permettent à des familles de se retrouver ? Mariage et enterrement. Là, on a un enterrement et on voit que les enfants d'Abraham sont là, on voit qu'il y a une réunion et c'est normal. Ça fait partie de ces moments où on laisse tomber tous les problèmes de famille et on se retrouve. Ce n'est pas forcément un moment heureux. Et le deuxième moment, ce sont les mariages. Voilà pourquoi est-ce que je crois qu'Abraham est mort dans la joie. Parce que son regard était tourné vers l'éternité et vers les promesses de Dieu. Parce que Jean nous dit en Jean chapitre 8, c'est Jésus qui parle et qui nous dit, je crois au verset 56, que Abraham a vu le jour de Jésus, il a vu Christ, il a compris quelque chose qui était juste extraordinaire. Il avait vu que de la postérité d'Isaac, quelqu'un viendrait et que ce quelqu'un serait extraordinaire, que ce quelqu'un serait la véritable bénédiction, la véritable promesse, l'accomplissement de la promesse, que Dieu viendrait s'incarner dans notre humanité, devenir exactement comme nous, mais vivre une vie différente de la nôtre, parfaite, sans tache, et que cette vie, il la livrerait pour nous, qu'il irait mourir, mais qu'au travers de ce sacrifice, tous ceux qui mourront en Christ auront la vie éternelle, parce que la plus grande des bénédictions, c'est celui qui est venu et qui a réglé son compte à la mort une fois pour toutes. Abraham savait que même s'il devait passer par la mort, que celui qui est la réalisation de la promesse viendrait et détruirait la puissance de la mort. Et nous avons des échos qui nous font rappeler en fait ce que Abraham avait compris au travers de son cheminement avec son Dieu. Lorsque Dieu lui avait dit de livrer son fils, on se souvient de cet épisode ? De livrer son fils. Par la foi, Abraham a été jusqu'au bout. Pourquoi ? Parce qu'il savait que même si son fils mourait, que son Dieu aurait la puissance de le ramener de la mort à la vie. Et Dieu l'a arrêté au dernier moment. Il lui a dit, oui, j'ai vu que tu me fais confiance. Mais Dieu a livré un autre fils, le sien. Le sien, qui lui est allé jusqu'au bout. Jusqu'à la mort. Et Abraham avait entrevu que cette mort qui est notre plus grand ennemi, les amis, je répète, la mort est le plus grand ennemi de l'humanité. Abraham avait discerné que celui qui est la réalisation de la promesse, celui qui est la véritable bénédiction pour toutes les nations, détruirait la mort, qu'il allait vaincre notre plus grand ennemi, la mort. Et voilà pourquoi Abraham pouvait mourir en étant serein, mais en ayant mis toutes ses bénédictions au service de la plus grande bénédiction qui était celle de voir un fils venir au travers de sa postérité et être la promesse dont nous avons tous besoin. Est-ce que vous commencez à discerner pourquoi est-ce que ce texte est aussi là ? Vous vous souvenez de mon histoire de biographie ? C'est souvent à la fin de la vie de quelqu'un qu'on peut voir si cette vie a eu du poids, si cette vie a eu un impact. C'est facile de bien commencer, mais le plus important, c'est de bien terminer. Et Abraham a bien terminé. Il n'a plus eu le regard tourné vers les bénédictions, mais le regard tourné vers celui qui est l'auteur des bénédictions. Et je suis reconnaissant pour les chants qui ont été choisis parce que, en fait, j'avais presque envie de dire qu'il fallait chanter les chants dans chacun de mes points, là. De les prendre les uns après les autres et de les rechanter. Tu es puissant, tu es saint, tu es digne. Oui, c'est vrai, il est digne. Et la vie d'Abraham est ce rappel pour nous qu'il est digne de confiance. Et nous qui sommes, en tout cas pour ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme sauveur et comme Seigneur, nous devenons les enfants spirituels d'Abraham par la foi et nous pouvons vivre également ces mêmes réalités. Bénédiction, où le Seigneur sera avec nous, il est avec nous, il nous donne ce dont nous avons besoin. Mais nous devons comprendre que ces bénédictions ne sont pas juste pour nous, mais qu'elles sont dans un plus grand projet qui nous dépasse, qui est celui de Dieu, qui est celui de permettre à des hommes et des femmes de connaître le nom de son Fils, Jésus, Jésus-Christ, le seul nom qui permet d'être sauvé, le seul qui a vaincu la mort, le seul qui promet qu'un jour, il n'y aura plus de funérailles, mais qu'on vivra les noces de l'agneau. Et à ce moment-là, on se retrouvera tous ensemble. Tous ceux qui auront accepté Jésus-Christ comme Seigneur et comme Sauveur vivront cette réalité, non plus de la mort, mais des noces de l'agneau, où il sera là avec nous. Et toutes nos bénédictions, en fait, seront fou. Non, c'est toi qu'on veut, et c'est toi que nous avons pour l'éternité et pour toujours. C'est lui qui est la véritable bénédiction. C'est lui, et seulement lui, pour qui on veut vivre, avancer, faire confiance, nous rappeler sa fidélité, nous rappeler ses promesses, nous rappeler sa personne. Et je nous invite à vivre cette réalité dans nos vies, jour après jour, avec la force que lui nous donnera. Avec la force que lui nous donnera. Pierre de Coubertin avait cette promesse qui était de permettre la réconciliation des peuples. Il n'a pas réussi. Il n'a pas réussi. Nous avons une promesse qui était qu'au travers de la postérité d'Abraham, celui qui viendrait serait une bénédiction pour le monde entier, pour tous ceux qui l'accepteraient. Et en fait, j'aime beaucoup venir ici parce que vous n'êtes pas comme moi, je suis noir, haïtien d'origine, je vois qu'il y a pas mal de personnes plutôt d'origine asiatique et pas que, ok. Est-ce qu'on se rend compte de ce que ça veut dire ? On est un dimanche matin, on vient d'endroits différents, on n'a pas forcément la même culture, pas le même backstage, etc. Et pourtant, on se réunit pour quoi ? Pour Jésus. On se réunit pour lui. Lui a réussi à accomplir ça. Et lui est celui qui va changer nos cœurs. Et lui est celui qui permet de dire, regardez mon église, diverses, différentes nations, regardez ce que je fais de cette église où des hommes différents apprennent à vivre ensemble et à s'aimer. Lui est capable d'accomplir cette promesse parce qu'il en est capable, parce qu'il est Dieu, parce qu'il est saint, parce qu'il est puissant. Et je pourrais continuer encore comme ça très longtemps. Et je vous encourage, je nous encourage à nous rappeler ces vérités sur qui est Dieu, pas seulement les bénédictions, mais qui est Dieu. J'ai un professeur, quand j'étais à l'Institut biblique de Genève, qui nous encourageait à prendre une lettre de l'alphabet et de trouver un mot qui nous permette d'adorer le Seigneur. Alors il y a des lettres qui sont plus faciles que les autres, hein, on est d'accord. Mais en fait, je trouvais que cet exercice juste génial de pouvoir se dire A, adoration, amour, B, bonté. Et en fait, de se rappeler, non pas la bénédiction, mais les caractéristiques, le caractère de notre Seigneur. Et ce texte-là même s'il semble un petit peu bizarre, même s'il parle de noms qu'on a du mal à comprendre,